Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. Soyez les bienvenus dans notre studio. Dans cette émission Éclairage, je vous propose d'y voir un peu plus clair sur une notion encore un peu nébuleuse, du moins pour certains d'entre nous, l'investissement socialement responsable, l'ISR. Cela nous permettra d'aborder un certain nombre de questions comme: peut-on tout à la fois parler de finances, d'économie de profit et de développement durable? Peut-on se procurer des produits financiers performants et soutenir une cause sociale, humaine ou environnementale? Peut-on placer son argent de façon rentable et contribuer à un monde meilleur, plus solidaire? C'est avec mon invité Xavier de Bézère que je vous propose de réfléchir à de telles questions. Xavier de Bézère, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous rejoindre à Canal Académie. Vous êtes le cofondateur d'IDEAM, une société de gestion dédiée à l'investissement socialement responsable. Et vous êtes le président du comité Médicis, un cercle de réflexion et de dialogue sur les grandes questions touchant au développement durable dans son rapport avec la finance. Alors j'aimerais tout d'abord que vous nous présentiez ces deux instances. IDEAM, ce sigle, ça veut dire quoi ?
Alors justement, IDEAM, le I est intéressant parce qu'il s'agit d'intégrale. Mm-hmm. Et on dit intégrale, développement, asset management, puisque toutes les sociétés de gestion finissent par asset management, c'est un grand classique. Mais ce qui n'est pas classique, c'est que de s'appeler intégral développement, puisqu'il s'agit à travers des investissements sur les bourses de pouvoir développer intégralement l'homme. Alors ça peut paraître très ambitieux, mais c'est pourtant l'objectif que nous nous sommes fixés et que nous avons quand même un petit peu atteint ces derniers temps, puisque récemment encore, dans un grand colloque à l'université Paris-Dauphine, Nicolas Sarkozy a dit que l'investissement socialement responsable était la pierre angulaire de la gestion. Alors donc j'étais quand même assez fier, étant donné que j'avais été un des premiers à le promouvoir, de voir que 15 ans après, l'investissement socialement responsable était considéré comme la pierre angulaire de l'investissement.
Donc c'était à peu près il y a 15 ans que vous avez fondé cette société de gestion. C'est une société qui gère des biens qui est...
C'est une société de gestion qui gère donc des actions et des obligations à travers le monde, plutôt pour le compte de grands investisseurs institutionnels. Donc c'est un métier que je connaissais bien pour l'avoir pratiqué depuis pratiquement 40 ans. Donc après une quinzaine d'années de formation, j'ai décidé de créer la première société de gestion et qui soit le plus transparent possible, c'est-à-dire où l'investisseur sache exactement quel risque a été pris, et vous voyez quelle est l'importance aujourd'hui de ce sujet, quel risque a été pris, et est-ce que ce risque a rapporté de l'argent ou n'a pas rapporté d'argent. Donc j'ai lancé ce qu'on a appelé la gestion quantitative, qui est en fait une gestion disciplinée où on sait exactement où les risques ont été pris.
Donc ça, c'est la société IDEAM dont vous venez de nous parler. Elle est attachée maintenant au Crédit Agricole.
Voilà. Alors effectivement, donc, partant de là, il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé d'inclure une troisième dimension à la finance. Parce que, vous savez, il y a deux dimensions, le rendement et le risque, hein, qui sont traduits souvent par deux émotions, la peur et l'appât du gain. On dit souvent que les bourses sont guidées par ces deux sentiments. Eh bien, moi, j'ai voulu ajouter une troisième dimension, un troisième R, qui serait responsabilité. Et donc, d'ajouter cette nouvelle dimension de la responsabilité, c'est-à-dire de voir en quoi les entreprises dans lesquelles on investit sont responsables vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de leur personnel et vis-à-vis de ses actionnaires. Comment sont-ils responsables ? C'était une façon de sélectionner les sociétés. Et donc, on ajoutait en quelque sorte une troisième dimension. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'avais inventé la finance en 3D. Hein ? Trois dimensions, 3D. Ou d'une autre façon de le dire, c'est que de la finance en noir et blanc, dont on a vu ce que ça donnait ces derniers temps, on a fait la finance en couleur. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde a envie d'investir en bourse, mais de façon raisonnée, transparente et responsable.
Et alors, quand vous choisissez les entreprises dont vous préconisez qu'elles sont responsables, vous vous fixez sur quels critères ? C'est-à-dire sur leur discours ou est-ce que vous faites une vérification ? Parce qu'on pourrait dire « je suis responsable ».
C'est une excellente question auquel je vais tenter de vous répondre avec précision. Effectivement, les sociétés déclarent un certain nombre de choses à travers leurs rapports annuels ou à travers des interviews, des émissions qui sont données par les dirigeants. Et de là, vous pouvez effectivement tirer un certain nombre d'informations qui vous permettent de savoir ce que ces sociétés font pour émettre moins de CO2, débaucher le moins de personnes possible ou respecter telle ou telle maladie, etc. Donc, c'est déclaratif. Mais bien sûr, il ne faut pas se tenir à cela. Et donc, nous avons mis au point un système qui permet, à partir de 15 000 sources quotidiennes, à travers 500 mots-clés liés à ces trois domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance, de voir tout ce qui se dit sur les 1600 sociétés de l'indice qu'on appelle l'indice MSCI World, qui est en fait qui regroupe les principales sociétés cotées dans le monde. Donc ces sociétés, nous les suivons et nous écoutons ce que les ONG, les syndicats, les journaux de tous les pays du monde peuvent dire sur ces sociétés. Et donc ceci complète notre vision de l'entreprise. Alors, à cela peut s'ajouter des rencontres, des interviews. Mais on se fonde effectivement pas uniquement
sur le déclaratif.
Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des outils d'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est à partir des informations qui sont disponibles, d'essayer de les collecter intelligemment pour pouvoir avoir l'information pertinente.
Alors, sans indiscrétion, sur les 1600 sociétés qui sont principales, qui sont cotées en bourse dans le monde, on en trouve combien qui sont socialement responsables et qui introduisent cette notion dans
Alors,
leur choix ?
Alors, nous n'avons pas une méthode qui dit celle-ci est responsable, celle-ci ne l'est pas. Nous avons une échelle qui va de moins 2 à plus 2.
D'accord. Hein ?
Et donc, dans nos portefeuilles, on construit des portefeuilles en prenant des titres qui sont entre 0 et plus 2. Mais voyez-vous, c'est vrai qu'il y a 15 ans, quand nous l'avons fait, on nous écoutait un petit peu d'une oreille pas très attentive. Mais les questions que nous posions étaient à l'époque pertinentes. Puisque je me souviens, dans le domaine de l'automobile, on avait suivi avec intérêt ce qu'avait fait Toyota sur les voitures hybrides, qui remontent déjà un certain temps. Et on était scandalisés par les voitures que produisait General Motors. En disant, et donc nous intervenions en Assemblée Générale pour dire « on ne comprend pas votre stratégie, puisque ça va à l'encontre ». D'une planète plus propre, etc. Alors eux, apparemment, à ce moment-là, ne s'en souciaient peu, mais nos questions étaient pertinentes, parce qu'en final, on voit bien que ceci est aujourd'hui sur le devant de la scène.
C'est parce que c'est l'urgence
voilà.
qui
De même que les questions génère. Que nous posions sur la rémunération des chefs d'entreprise, ça fait des années qu'en Assemblée Générale, quand il y a des distorsions ou des choses qui ne nous semblent pas acceptables, nous le soulignons en Assemblée Générale. Et donc, plus nous sommes nombreux à apporter un jugement, je dirais, dans les assemblées générales, plus on a de pouvoir. Parce que c'est ce qui est que le peu de gens savent, c'est que le vrai pouvoir sur une entreprise, l'État ne l'a pas vraiment le pouvoir. Bon, il a peut-être le pouvoir quand la société va faire faillite, mais quand elle est en bonne santé, là, on n'a aucun pouvoir. Les seuls qui ont un pouvoir sur l'entreprise, ce sont les actionnaires à travers une assemblée générale. Donc si vous regroupez beaucoup de personnes qui posent ces mêmes questions, vous devenez une force que les entreprises sont obligées de prendre en compte. Donc c'est un moyen extraordinaire de faire changer de comportement des entreprises qui ne se comporteraient pas bien. Et il y a eu plusieurs exemples où on n'était pas très content du président d'une société très importante, je ne vais pas citer de nom, mais on a réussi à faire changer le président.
Oui, parce pour que les choix se réorientent
pour
autrement.
Pour que les choix se réorientent autrement. Donc on a un véritable pouvoir parce que ce dont... Je vais vous dire quelque chose que peu de gens perçoivent. Les marchés financiers, c'est comme un énorme sondage. Et c'est d'ailleurs le seul domaine où c'est un sondage permanent, de seconde en seconde. Il n'en existe pas d'autre dans les sciences sociales. Donc chaque seconde, il y a des échanges entre des gens qui achètent et des gens qui vendent. C'est comme un sondage, mais alors ce sondage, il est très particulier parce qu'il est à l'envers. On connaît les réponses, c'est-à-dire les cours, mais on ne connaît pas les questions. Ce à partir de quoi bougent les prix. Et donc, vous avez ce sondage à l'envers qui est intéressant parce que c'est une véritable opinion qui est indiquée dans le...
une grille de lecture, absolument, oui.
Donc, vous pouvez, à partir du moment où vous avez compris que les marchés financiers pouvaient être une caisse de résonance très importante pour émettre une opinion, plus vous êtes nombreux à émettre l'opinion à travers vos achats et vos ventes, plus vous avez d'influence. Donc, les marchés financiers, de ce point de vue-là, peuvent être considérés comme une caisse de résonance extraordinaire. Et effectivement, peut-être que s'il y avait eu plus de gens qui avaient fait de l'investissement socialement responsable, on ne serait pas arrivé à la crise que nous connaissons aujourd'hui.
Alors revenons, si vous voulez bien, au mot développement durable. On sait que les anglo-saxons utilisent plutôt global que durable. On sait moins peut-être que les Chinois utilisent de préférence harmonie et non pas développement. Est-ce que toutes ces nuances de vocabulaire ont un sens pour vous ?
Ont énormément de sens et je suis très intimidé puisque je suis sur Canal Academy, donc je vais faire attention
c'est
à ce que je dis.
C'est pour ça qu'on fait attention aux mots.
Aux mots, absolument. Alors, effectivement, sustainable development, c'est donc un développement soutenable. C'est-à-dire
soutenable,
que
soutenable,
c'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à avoir un taux de croissance de l'économie tout en préservant les générations futures et leur permettant d'avoir une planète propre. Bon, c'était l'idée de départ. Hein ? Alors, nous avons traduit en français par développement durable. Alors, d'aucuns disent que cette traduction n'est pas bonne, elle n'est pas tout à fait exacte, c'est vrai, parce que sustainable n'est pas équivalent à durable. Et ce qui est intéressant, c'est de se fonder sur le mot durable, parce que les gens n'ont pas vraiment réfléchi encore vraiment à ce que c'était que la durée. Hein, vous savez que c'est Bergson qui en a le mieux parlé, hein, Saint-Augustin en a beaucoup parlé, mais Bergson en a parlé. Et il dit que c'est le temps présent, que la durée, c'est une succession de temps présents qui s'enracine dans le passé et tournée vers le futur, qui fait que chacun présent est considéré comme une note de musique. Hein, parce que la note de musique, elle dépend de la note précédente et elle dépend de la note suivante. Et donc, en quelque sorte, si nous vivons correctement la durée, la vie devient une sorte de mélodie, vous voyez, hein ? Et que dans ce temps présent, eh bien, il faut être en harmonie avec vos concitoyens, etc. Donc, l'idée du développement durable, de la durée, est beaucoup plus riche que soutenable. Hein, parce que ce qu'on demande là, dans développement durable, ça connote l'idée d'une harmonie. C'est qu'en permanence, il faut que notre développement maintienne une harmonie entre les hommes, entre les hommes et la nature. Donc, c'est, à mon avis, beaucoup plus riche que « sustainable ».
Donc, on pourrait dire une harmonie durable. On est peut-être en
les
train
Chinois.
De changer. Les Chinois
les
le disent,
Chinois, par
justement.
Exemple, le mot développement, j'ai interrogé des spécialistes du chinois, m'ont dit que ça n'existe pas, le mot développement chinois. Hein, c'est harmonie. C'est-à-dire que vous savez que les Chinois sont toujours sensibles à l'équilibre entre le yin et le yang. Et si le yin et le yang est en harmonie, ça dégage une énergie qui appelle le qi. Et c'est ce qui arrive à créer ce mouvement, cette dynamique de la vie.
Espérons qu'ils ne l'oublieront pas dans leurs choix économiques. Alors justement, l'économie, là aussi c'est un mot intéressant, économie. Éco, c'est la maison, oikos, la maison, et nomos, c'est la loi, c'est la règle. Alors on en a peut-être oublié, à votre idée, on a oublié la manière de vivre ensemble avec des règles sur la planète, qui est notre maison à tous.
Voilà, alors je suis heureux d'entendre cette étymologie du mot économie, qui me plaît beaucoup, et la preuve que les gens l'ont oublié, c'est que, par exemple, on vous dit que dans le développement durable, il y a trois piliers. L'environnement, le social, la gouvernance. Il dit, c'est pas trois piliers. Et puis après, on nous dit, ah ben, on a oublié un quatrième, qui est la culture. Bon, ben, pas du tout, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quatre piliers, la culture, l'économie. Non, c'est tout est dans l'économie, puisque l'économie, c'est la façon d'habiter ensemble. D'habiter, c'est respecter la nature, c'est respecter son voisin, c'est respecter les autres. C'est donc tout est dans l'économie. Et donc, ce qui est en jeu dans la crise aujourd'hui, c'est de trouver une nouvelle façon d'habiter ensemble, plus harmonieuse, qui tient plus compte de l'autre. Hein ? Donc, je vais.
Mais est-ce que les marchés financiers sont un peu altruistes comme ça ? On les voit pas vraiment attentifs à autrui.
Quand on dit les marchés financiers, effectivement, ce sont tous les investisseurs. Alors, il y a des investisseurs de tout poil. Mais je peux témoigner quand même que ce qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels, comme par exemple le fonds du pétrole norvégien. Le fonds du pétrole norvégien a quand même 150 milliards d'euros. Excusez-moi du peu, d'investissement sur les marchés financiers. Et je peux vous dire qu'ils sont extrêmement rigoureux dans les sociétés qu'ils choisissent. Je me souviens d'un exemple qui avait fait beaucoup de bruit, qui était Walmart. Ils ne voulaient pas investir dans Walmart parce qu'ils considéraient que Walmart se comportait mal par rapport à l'environnement et par rapport au social. Ça est remonté jusqu'au côté diplomatique. Les Américains ont fait des pressions sur la Norvège pour dire « mais vous devriez investir dans Walmart ». Et bien finalement, ils ne l'ont pas fait et le résultat a été extraordinaire parce que Walmart a été piqué au vif et ont dit « puisque c'est comme ça, nous allons devenir les meilleurs sur leur environnement ». Et en un an, ils ont fait des progrès considérables. Donc vous voyez que...
Il ne faut jamais désespérer.
Donc
il
y a des grands investisseurs. Hein, donc vous avez en France le fonds de réserve des retraites. Vous avez tout un tas de grands fonds d'investissement qui de plus en plus investissent de façon socialement responsable. Et donc ça, c'est une façon de faire évoluer les choses positivement.
Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se développer très, très largement maintenant ? Vous dites qu'il y a 15 ans, on vous écoutait avec respect, mais enfin tout de même avec distance aussi. Est-ce que maintenant, véritablement, les grandes entreprises
je crois quand même que les gens ou les investisseurs ont senti que si les entreprises n'avaient pas de bonne gouvernance, qu'ils nous racontaient des salades, etc., il pouvait y avoir des conséquences assez dramatiques sur les résultats de votre portefeuille. Par conséquent, donc, toutes les questions que nous posons depuis quelques années s'avèrent aujourd'hui considérées comme pertinentes. Nous avons une façon pertinente de sélectionner les entreprises qui seront, de mon point de vue, les meilleures de demain. Alors, ça ne se fait, comme vous savez, ça ne se fait pas dans l'instant, mais on peut considérer qu'une société qui a une bonne gouvernance a moins de chances de faire faillite qu'une société qui a une mauvaise gouvernance, dans le même secteur. Hein. Ça, c'est celles qui font attention à l'environnement et s'organisent de telle sorte d'être favorables à l'environnement, ce sont des sociétés qui savent s'organiser. Donc, on peut penser qu'elles seront à terme meilleures que les autres. Donc, je pense qu'à terme, oui, cette façon de sélectionner les entreprises, d'orienter les stratégies des entreprises est une bonne chose pour la planète.
Et quand on est un investisseur, qu'on veut acheter des actions ou des SICAV ou des obligations, je ne sais quoi encore sur les marchés financiers, est-ce que maintenant les gens prennent vraiment conscience d'un choix et disent « moi je ne veux pas de cela, je veux cela et je veux que ce soit socialement responsable ».
Voilà. Alors, comment ça certains d'entre eux, disons entre guillemets les épargnants militants, sont conscients de ça. Je pense qu'il y a plus de la majorité de la population, plus de la majorité des épargnants, qui inconsciemment souhaiteraient à travers leur épargne faire quelque chose de positif pour la planète. Mais ils n'ont pas encore conscience qu'ils peuvent le faire à travers des instruments qui existent, voyez. Donc c'est plutôt ce qu'on dit de façon très technique, c'est un marché de l'offre et non pas un marché de la demande. Je pense qu'il y a une demande sous-jacente, mais qui n'est pas exprimée encore totalement. Et c'est à ceux qui fabriquent les produits financiers de proposer une offre qui va rencontrer cette demande sous-jacente. Et je crois que dans les années à venir, les épargnants vont se rendre compte qu'ils ont des moyens d'avoir le pouvoir, finalement. Parce qu'à travers ça, c'est eux qui ont le pouvoir sur les entreprises. Hein. C'est plus que le vote, hein. C'est un pouvoir qui peut être très important pour orienter les choses. Alors, ceci étant, il reste un petit problème à résoudre, qui est un problème donc, de communication, parce que investissement socialement responsable, nous en parlons déjà depuis quelques minutes, ça n'est pas si évident que ça à expliquer. Ça reste relativement abscon pour beaucoup de gens. Et alors, parce que quand on leur a expliqué ça, ils me disent « Et alors, est-ce que vous êtes en mesure, par exemple, de me dire combien d'émissions de gaz à effet de serre j'ai réussi à économiser en investissant dans telle ou telle société ?» Alors, petit à petit, on est en train de s'équiper pour pouvoir le dire et pouvoir donner une expression que j'aime bien, qui est le dividende vert.
Le dividende vert, c'est la mesure, alors.
C'est de dire, voilà, j'investis dans un portefeuille, je vais avoir un dividende cash, c'est-à-dire je vais toucher des sous-sous, hein, mais je vais en plus avoir un dividende vert, c'est-à-dire que je vais être conscient que grâce à mon investissement, j'ai encouragé des sociétés qui diminuent les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est très important parce qu'une fois que la personne a touché du doigt la conséquence exacte de son investissement, il est beaucoup plus enclin à la faire.
Donc l'épargnant se sent utile, se sent solidaire et jouit d'un certain pouvoir puisqu'il choisit en effet telle société plutôt que telle autre. Mais en même temps, il veut aussi préserver la sécurité de son placement. C'est-à-dire qu'il veut tout de même gagner de l'argent. Ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre.
C'est totalement compatible et je dirais que c'est même plus que compatible parce qu'on n'a pas prouvé qu'on faisait moins bien et je pense que dans l'avenir, on fera mieux que les placements classiques.
Merci Xavier de Vézère. J'espère que nous avons éclairé nos auditeurs sur cet investissement socialement responsable, l'ISR. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire le sigle, mais...
Oui, alors voilà, c'est ISR en français, c'est SRI en anglais, mais maintenant c'est un terme, une terminologie qui est bien assise et qui, je crois, est promise à un bel avenir.
Merci à vous. On vous retrouvera dans d'autres émissions sur Canal Académie.
Mais je vous remercie aussi. Au revoir.